chose que j'ai entendu à la télévision, ils se sont dit que les abeilles, dans ce moment, ils étaient en train de mourir et c'était à cause du produit, en fait, que les gens mettaient dans les cultures. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de ça, parce que comme toi, tu es apiculteur, je voudrais juste voir quelle était ton opinion.
Ben, ça, c'est en grande partie vrai, certainement. Disons que moi, je ne me suis pas renseigné plus que ça sur le problème, mais disons que je le vois avec les abeilles que nous avons. Mon père il avait presque 200 ruches et il a pris sa retraite, mais il n'a pas eu besoin de revendre ses ruches pour avoir le nombre d'abeilles qu'il avait. Maintenant, il n'a plus le droit d'avoir que 30 ruches. Donc, pour avoir moins de ruches, il n'a pas eu besoin de vendre ses ruches. Il y a eu des ruches qui sont mortes. Et il s'est moins occupé de récupérer de nouveaux essaims. Et la raison de la mortalité, on pense que c'est ça. Les abeilles sont moins vigoureuses. Il y a moins de monde dans les ruches au niveau de la résistance à la fin des hivers. Enfin, les populations sont plus faibles. Et puis, comme il allait prendre sa retraite, il n'a pas pris d'initiative pour augmenter le nombre de ruches. Et on pense que la cause, ça peut être ça. Mais, disons que c'est lié certainement à des problèmes de traitement. Hein. Comme les ruches sont dans des zones agricoles où il y a ces traitements, il y a des champs qui peuvent être concernés par ces traitements-là. Mais disons, comme on est dans une phase de baisse de production, on a moins de ruches, on a laissé faire.
D'accord, oui, mais du moment que les abeilles meurent, vous aussi, enfin, vous perdez la production. Et après, comment ça va se passer par rapport à l'argent?
Il y a moins de... Disons qu'il y a une baisse de la production au niveau national. Mais nous, comme mon père a pris sa retraite, c'est sa retraite qui compense la production.
D'accord.
Et moi, j'avais pas beaucoup de ruches. Lui, mon père vendait mon miel. Moi, je vais continuer un peu à en faire, mais c'est pas beaucoup de ruches. Bon, comme mes ruches sont à 100 km maintenant d'où on habite, on s'en occupe moins, disons. Et on a laissé un petit peu faire, mais on a remarqué une baisse de la population des abeilles.
D'accord, oui, mais tu t'en occupes quand même tous les années.
On s'en occupe au printemps, parce que c'est là qu'il faut... Pas pendant l'hiver, là, comme actuellement, on s'en occupe pratiquement pas. Et au printemps, il faut commencer à s'en occuper. On s'en occupe, il faut nettoyer le terrain où sont les abeilles, préparer, vider les ruches qui sont mortes pendant l'hiver. Nettoyer les planchers des ruches qui restent. Disons qu'il y a un travail qui commence au printemps et je le ferai pendant les vacances de Pâques.
Et ça dure combien de temps ton travail?
C'est compatible avec mon travail. Hein. C'est disons qu'il y a des apiculteurs qui font ça à plein temps, mais mon travail, on ne peut pas le chiffrer en temps, c'est par période. Il y a des périodes de travail. Et puis on peut le faire plus ou moins bien. Il y a eu des périodes où je passais plus de temps parce que le terrain, je le nettoyais de façon impeccable. Il y a eu, comme ces dernières années, où je nettoyais moins bien le terrain. Alors le temps, c'est difficile de dire. Il faut au printemps nettoyer le terrain. Il faut compter une journée de travail de terrain pour nettoyer le terrain. Une ou deux journées de travail pour préparer les ruches, nettoyer les planchers, vider les ruches mortes. Mettons deux jours de travail, on peut dire trois ou quatre jours de travail au printemps.
D'accord. Et après, printemps. Oui. Et après, en fait, que tu as vidé les ruches là et tu as tout fait, ça te produit exactement combien des pots, des bacs de miel, tu sais pas exactement à peu près combien tu as par an?
Oui. Enfin, au niveau travail. Il y a encore d'autres choses à faire après.
Ah, d'accord.
Il y a d'autres choses même à faire après. Sinon, au niveau de la production, ça peut être de 10 à 15 kilos de miel par an, par ruche. C'est à peu près la quantité de miel qu'on peut faire dans notre région.
D'accord.
La quantité de miel produite dépend de la colonie, de la ruche elle-même, si elle est dynamique ou pas, si la reine est jeune, si elle pond beaucoup d'œufs, la ruche produira plus. Ça dépend du temps, Ça dépend de la situation des ruchers. Nous, dans notre région, on ne fait pas des récoltes extraordinaires.
Oui, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est une ruche? Parce que moi, je ne comprends pas.
Alors, la ruche, donc, c'est formé de l'habitation qu'on leur construit. Disons que là, c'est nous qui les avons fabriqués. Hein, et plus les abeilles qui sont à l'intérieur. Alors, tu veux savoir sur la population, sur la ruche elle-même?
Oui, sur la ruche elle-même. Elle est faite en quoi, en fait?
Les nôtres sont faites en... Comment c'est ce bois? C'est du peuplier. Bon, je crois qu'il y en a beaucoup, en général, qui sont faites en sapin, mais les nôtres sont faites en peuplier. Bon, mon père connaissait un grand-père qui sciait des peupliers. Il en faisait des planches, alors nous on a fait les ruches avec ces planches-là.
D'accord.
Et
tu ne peux pas calculer la quantité des abeilles qui se trouvent dans la ruche?
On le sait, il n'y a pas le même nombre d'abeilles en hiver qu'au printemps. En hiver, bon, les abeilles hibernent, elles mangent le miel qu'elles ont mis en réserve pour maintenir une température suffisante pour qu'elles puissent survivre. Parce que s'il faisait trop froid, elles seraient engourdies et les abeilles mourraient. Donc en hiver, elles mangent le miel, donc elles sont peu nombreuses. En hiver, je ne sais pas combien elles peuvent être. Ça peut être 5 000, 10 000 abeilles pendant l'hiver. Alors qu'au printemps, ça peut monter à 60 000.
Ah, ok.
Ça monte à 60 000 parce que la reine, c'est plutôt la mère des abeilles. C'est la seule femelle de la ruche. Il y a des mâles, la reine, et puis les abeilles, on peut dire que c'est des neutres, des ouvrières qui vont travailler.
D'accord.
Donc la reine, c'est la mère. Elle pond des œufs, elle pond énormément. Elle passe tout son temps à pondre une fois le printemps.
D'accord.
Et dès que les jeunes abeilles naissent, là, il y a une forte population qui va travailler. Et la ruche, finalement, c'est un peu l'unité. L'unité, c'est... Pour ça, tu me posais la question, qu'est-ce que c'est une ruche? On compte plus la ruche que l'abeille, parce que l'abeille toute seule ne compte pas. L'unité, c'est la ruche. Bon, avec un rôle plus important pour la mère, là, qu'on appelle la reine. Et disons que l'abeille, disons, elle passe son temps au printemps, et en été, mais surtout au printemps, au moment où il y a beaucoup de fleurs,
elle
à récolter le miel.
Elle ne mord pas la
l'abeille qui naît en fin de saison, en automne, va passer tout l'hiver. Mais une abeille qui naît au printemps, je crois avoir vu qu'elle vit en moyenne à peu près 3 semaines. Parce qu'elle meurt par accident pendant son travail, pendant qu'elle va sur les fleurs. Il y a toutes sortes de causes qui font qu'elle peut mourir, mangée par un oiseau. Et puis elle travaille, donc elle se fatigue plus. Donc une abeille qui naît au printemps va vivre 3 semaines. Et une abeille qui naît, comme je te disais, à l'automne, va passer tout l'hiver à manger le miel, à maintenir une température constante, à ne rien faire, à survivre.
Ok, et du coup quand tu enlèves tout le miel dans les ruches, par exemple en printemps, et tu arrives à combien avoir par exemple la quantité, les bacs, tout ça, peu près?
La quantité de miel?
Oui, la quantité de miel par bac, par exemple.
Par bac, qu'est-ce que tu appelles un bac?
Oui, le pot que tu vends. Tu te souviens les pots que tu vends?
Oui, on vend des pots d'un kilo.
Voilà, d'un
mais...
kilo.
Alors la quantité par...
Oui, global.
Par ruche ou au total?
Oui, au total, oui.
Alors nous, ça dépend. L'année dernière, combien c'était? Je ne me rappelle même plus. C'est mon père qui tient la comptabilité du miel. Nous, c'est... Alors l'année dernière, on a eu de l'ordre de 200 kilos.
200 kilos de miel.
Disons qu'on n'a pas... Disons que c'est plus mon père qui avait une plus grande quantité de miel.
D'accord.
Et puis nous, on en a moins maintenant, comme je m'en occupe moins.
D'accord.
Disons, ça c'est la récolte au total.
Au total.
Mais il y a eu une période où j'avais plus de ruches.
Ok, et sinon, quand tu vas le vendre au marché, ou chez les gens, parce que tu m'avais dit l'autre fois que tu le vendais chez les gens, et tu vends à combien le pot exactement par unité?
Alors mon père vend le miel actuellement à 5 euros le kilo. C'est vrai qu'il y a quelques années, on le vendait... J'allais avec mon père le vendre en porte-à-porte
J'y allais à peu près trois jours dans l'année avec mon père et ma mère, mais on a arrêté de faire ça il y a peut-être, ça fait peut-être 10 ans qu'on ne le fait plus.
Ah d'accord.
Depuis 10 ans, 8 ans qu'on ne le fait plus. C'était au moment où on avait plus de miel à vendre. Là, depuis 8 ans, 10 ans, mon père vend toute la production sur les marchés. Et moi, je m'occupe plus de le vendre. Disons qu'il y a eu une évolution depuis qu'on habite à depuis 10 ans. Nos ruches sont restées dans la à presque 100 km. Donc je m'en occupe moins. Et ça fait que la production, la qualité du travail que nous on donne aux abeilles a un peu baissé.
D'accord. Et tu sais, à chaque fois que je vais au marché, je trouve parfois de plusieurs miels de toutes sortes. Est-ce que ça vient de la même abeille ou est-ce qu'ils font, ou est-ce que par rapport au temps que l'abeille reste dans sa trouche, que ça change le miel?
Non. Alors les différentes variétés de miel, ça dépend où l'abeille a été travaillée, sur quelle fleur elle est allée travailler. Par exemple, nous, on a un rucher sédentaire, c'est-à-dire qu'il reste toujours au même endroit. Donc on récolte que 2 sortes de miel. Un premier qu'on récolte au mois de juin, dès que les champs de colza sont défleuris. Donc là, c'est le miel, on appelle le miel de printemps, mais il y a une grande proportion de miel de colza. Donc c'est la sorte de fleur qui fait que le miel là de colza, il est blanc et épais.
Ah oui,
et nous
d'accord.
On fait une deuxième récolte fin juillet début août. Et là le miel, c'est toutes les fleurs qu'il y a dans notre région entre début juin et fin juillet. Donc c'est à la majorité pour l'endroit où sont nos ruches, il y a une majorité de miel d'acacia, acacia, mûre, qu'est-ce qu'il y a encore, des mûres, qu'est-ce qu'il y a encore, des fleurs de tilleul, oui c'est ça, il y a les fleurs de tilleul, c'est un mélange de ces fleurs-là et c'est un miel qui reste liquide plus longtemps, qui est plus foncé. Mais il y a toutes sortes de variétés de miel. Ceux qui veulent avoir un miel bien spécifique, il faut qu'ils tirent le miel avant la floraison d'une certaine fleur et qu'ils récoltent à nouveau dès que la fleur est fanée. Parce que les abeilles, dès qu'elles savent qu'il y a cette sorte de fleur, toute la colonie va sur cette sorte de fleur. Elles se donnent l'information et elles vont toutes sur la même sorte de fleur parce que c'est plus rentable pour le travail d'aller sur la même sorte de fleur qui fleurit à un certain moment. Ça fait que dans la ruche, il y a un miel bien spécifique. Donc, chaque miel différent correspond à une fleur différente. Alors, une fois, j'ai vu un apiculteur qui avait été en Algérie, qui avait récolté un miel, il m'a dit qu'il était blanc comme du sindou. Il était tout blanc. Alors, il s'apprêtait même à le jeter, ce miel. Parce qu'il se disait, c'est invendable, un miel dur, comme ça, tout blanc. Et dans le village algérien où il l'avait récolté, il y a quelqu'un qui a vu qu'il avait récolté ce miel. Et quelques heures après, tout le village venait lui acheter de son miel. Parce que c'était du miel d'eucalyptus. Et c'était rare que les eucalyptus fleurissent. Donc ça arrive que de temps en temps. Et quand il y en a, pour eux, ça leur servait un peu comme un médicament spécial. Donc ils venaient chercher ce miel. Alors ce miel qu'ils pensaient jeter, il l'a vendu tout de suite là, aux gens du village où il avait ses ruches.
D'accord. Donc dis donc que c'est vraiment bien travaillé ces trucs de le miel. Je ne savais pas comment ça se faisait et tout. Mais je trouve que c'est bien. Mais pour autant, tu fais d'autres choses, mais tu connais bien ton boulot et tout. Surtout, tu as travaillé avec ton papa.
La connaissance des abeilles et du miel, ça remonte à une origine familiale. C'est mon grand-père qui a décidé de faire des ruches. Donc, il avait acheté une ruche. Et mon grand-père, il a été jusque 100 ruches, mon père est monté à 200 ruches, et les ruches, on les a toutes faites nous-mêmes, et puis le reste du savoir-faire, il s'est transmis avec quelques petites évolutions.
Et toi, tu as descendu tes ruches.
Et moi, j'ai fait le contraire, j'ai diminué. Mais je, c'est pas disparu complètement. Il y a eu une période où, à cause du travail, moi et ma femme, on est assez pris par notre travail, on a moins de temps à y consacrer. Mais j'ai assuré le minimum quand même pour maintenir un minimum de ruches. Et bon, actuellement, je suis un peu dans l'état d'esprit de peut-être consacrer un peu plus de temps dans la mesure où mon père, qui a moins de miel à vendre parce qu'il n'a plus le droit d'avoir que 30 ruches, il a moins de miel à vendre. Peut-être que moi, j'aurais intérêt à en refaire plus, disons, comme il me vendrait mon miel. Donc, ça serait peut-être intéressant d'en refaire plus. Alors, je suis en train de me... Peut-être qu'au printemps, j'arrangerai mieux mon rucher. Je serai... Donc, pour avoir plus de ruches, bon, il y a le problème de... On parlait du gaucho tout à l'heure, l'insecticide qui amène pas mal de mortalité chez les abeilles. Mais on peut se dire que c'est une période qui va passer, que ça sera peut-être interdit. Enfin, il y aura forcément une solution qui sera trouvée. Mais si je veux augmenter mon nombre de ruches, il faut que je sois plus actif. On n'en a pas parlé tout à l'heure au niveau du travail du printemps, au moment de l'essaimage des abeilles. Donc il faut tendre des... Parce que je ne suis pas sur place sur mon rucher pour attraper les essaims qui sortent des ruches. Donc il faut que je tende des pièges à essaims, des petites ruches vides que je tends dans la nature. Et les essaims peuvent rentrer dedans et ça me donne des ruches supplémentaires. Donc il faut que je passe du temps à préparer ces petites ruchettes et puis à attraper un minimum d'essaims pour reconstituer les ruches qui meurent dans mon rucher.
Peut-être que tu me montreras le printemps prochain, parce que moi, je n'ai jamais été voir ça, et ça m'intéresse bien de savoir comment tu le fais.
Attraper les essaims, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Attraper les essaims, même ma fille, elle a déjà vu, et c'est intéressant. Ça peut être impressionnant, mais quand les abeilles sont en période d'essaimage, alors l'essaimage, c'est la moitié des abeilles d'une ruche, quitte la ruche avec la vieille reine, donc la vieille mère, et part pour faire une nouvelle colonie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'unité, c'est la ruche. Donc ils partent pour faire une autre unité. Il y a la moitié des abeilles qui suit la vieille reine pour faire une nouvelle ruche, donc elles sont à la recherche d'une habitation, et l'autre moitié des abeilles reste dans la ruche et va élever une nouvelle reine qui restera dans la ruche. Donc c'est comme ça que dans une même ruche, il y a un renouvellement de la reine. D'accord. Qui redevient plus jeune à chaque fois. Et pour avoir une nouvelle reine, c'est à partir d'un œuf pondu par l'ancienne reine qui normalement doit donner une abeille.
C'est un peu comme l'héritage.
Ouais, non, mais ce qui est spécifique, c'est que cet œuf, s'il est nourri, la larve qui va se développer, si elle est nourrie comme habituellement par du pollen, ça va donner une abeille. Mais là, cette larve, les abeilles lui donnent de la gelée royale. La larve est nourrie avec de la gelée royale. Et rien que par le changement de régime alimentaire, ça va donner une reine. Donc c'est le changement de régime alimentaire qui fait évoluer la larve différemment. Donc il y a une reine qui reste... dans la ruche, l'autre s'en va, et puis donc dans un premier temps, l'essaim qui est parti avec les abeilles, la moitié des abeilles qui sont parties se posent dans un rayon de 50 mètres autour du rucher. Donc quand on habite sur place, on y va tous les jours, on regarde dans un rayon de 50 mètres s'il y a des essaims et on les capture, on les met nous-mêmes dans une ruchette, dans une ruche. Et si on n'est pas là, donc il faut la seule solution, si on n'est pas là tous les jours, c'est de tendre des pièges. Parce que dans un deuxième temps, une fois que l'essaim est dans un rayon de 50 mètres posé sur une branche, les abeilles vont à la recherche d'une habitation. Alors quand c'est à l'état sauvage, elles vont dans un tronc d'arbre creux, n'importe quel abri. Mais nous, on leur propose des maisons toutes faites. Donc c'est des ruchettes, et puis on met un produit ou on met un vieux cadre à l'intérieur pour attirer les abeilles qui sont à la recherche d'une habitation. elles préviennent les saints, et les saints se dirigent en entier. Alors les essaims qu'on voit passer en l'air, c'est ça, ils vont vers un endroit guidés par les abeilles qui ont repéré une nouvelle habitation. Et elles rentrent dans le piège. Alors c'est comme ça que je mets moi aussi des ruchettes dans mon jardin, au milieu de... Je mets, et on capture des essaims de cette façon-là. Donc c'est intéressant, et les abeilles, pendant qu'elles sont à la recherche, elles ne sont pas agressives du tout. Hein. Les abeilles ne sont agressives que si on vient attaquer leur maison. Ah, okay. Pour leur voler le miel, là elles peuvent être agressives, mais quand elles sont en essaim, ben, elles n'ont rien à défendre. Hein. Elles sont à la recherche d'une habitation, oui, donc elles ne sont pas agressives du tout.
Ok. Donc,
donc si tu veux voir...
Oui, oui, ça m'intéresse de voir ça. Déjà, tu me l'as expliqué, donc peut-être dans la pratique, ça sera un peu plus impressionnant. Voilà.
Ouais.